un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Le studio de Radio Libre en Périgord étant fermé ce lundi 9 juin, cette chronique du groupe Fred Zeller a été enregistrée vendredi 6. J'ai déjà eu l'occasion dans cette chronique d'évoquer les cahiers de l'Observatoire économique et social de la libre pensée. Le numéro 10 de cette publication, qui est accessible gratuitement sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, donc ce numéro 10, daté de juin 2025, vient de paraître. Je voudrais vous en faire la présentation, telle que Christian Echen l'a fait dans ce qu'il sert d'éditorial de ce numéro de l'Observatoire social. Pourquoi faire payer les riches quand les pauvres sont si nombreux? Incontestablement, nous sommes dans une situation de marche à la guerre, même si, heureusement, rien n'est encore écrit ni inéluctable. Mais il faut être rationnel. La mise en œuvre d'une économie de guerre pour tenter de résoudre les contradictions des capitalismes et de l'impérialisme peut déboucher sur la guerre, comme sur un sursaut des peuples qui refusent cette marche à la barbarie. Socialisme ou barbarie, la formule de Rosa Luxembourg est toujours aussi prégnante. La résistance ne peut que se manifester avec de plus en plus de force contre la volonté de saigner à blanc les travailleurs et les peuples pour financer la marche à la guerre. Tout doit être détruit, acquis sociaux, services publics, liberté démocratique, etc. pour financer la guerre pour le plus grand profit des capitalistes. Jamais la formule du libéralisme économique « pourquoi faire payer les riches quand les pauvres sont si nombreux » n'aura été aussi vraie et aussi celle qui prédit que tant à la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. De ce fait, la période est à la clarification pour l'action sur tous les plans, sur celui de la laïcité, chère au cœur des libres penseurs, puisqu'elle est leur grande œuvre, à travers notamment, mais pas exclusivement, les lois laïques de 1881, 1882, 1884, 1886, et parachevées par la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État. Son 120e anniversaire le montrera clairement. Loi de séparation de 1905 ou loi séparatisme de 2021. Il faudra choisir entre la liberté et la répression raciste, entre la liberté de conscience et l'idéologie d'État. Le meeting national et international du 6 décembre prochain au gymnase Japy sera un élément de cette clarification fondamentale. Le conclave se rebiffe. Vous connaissez tous les films quasi éponymes qui montrent comment un fourré de truands se retourne en son contraire. C'est ce qui est en train de se passer, comme le montre la manœuvre de bas étage du gouvernement Macron-Bérou sur le conclave et de la réforme des retraites, est en train de tourner en son contraire par le départ ulcéré et en fanfare de la CGTFO et de la CGT. Même une partie du patronat claque la porte. Tout va partir en quenouille et cela entraînera une clarification d'où émergera une action encore plus forte. Comme pour la laïcité, une barricade n'a que deux côtés. Et on commence à percevoir nettement qui sera où dans la gigantesque bataille qui s'annonce et dont les éléments constitutifs s'avancèlent au fur et à mesure. Rêves, manifestations, fronts de refus qui s'élargissent sans cesse, jonctions de plus en plus importantes du mouvement ouvrier organisé avec les associations d'immigrés, de quartiers, de sans-papiers et de nombreux comités pour que justice soit rendue après les nombreuses exactions de répression, assassinats et exécutions commis par les forces de l'ordre, toutes entières au service du capital et de la réaction raciste la plus noire. Là aussi, le meeting de Japy sera un élément de cette jonction, car la conscience que nous sommes dans un sort commun va devenir de plus en plus prégnante et que la solution, qui ne peut être que collective, deviendra une puissante évidence. La révolution prométhérienne. La force de l'histoire, c'est l'histoire elle-même. Elle se rappelle au souvenir de chacun, et parler d'histoire, c'est aussi faire l'histoire. La libre pensée étant aussi, en plus de son action en défense de la laïcité, une association d'éducation populaire, vous trouverez dans ce cahier deux études. L'une à l'occasion des 100 ans de la revue La Révolution prolétarienne, Mais par une faute de frappe involontaire sur mon clavier, j'avais appelé Niaguère longtemps la révolution prométharienne. Il y a des lapsus involontaires révélateurs, celui-là, je le garde. La deuxième étude porte sur l'UTCL et les communistes libertaires, qui fut et est encore un courant important dans le mouvement anarchiste. Nous publierons dans le prochain cahier deux, trois études, une sur la CGT dans les années 50, une autre sur la manifestation Ridgway du 28 mai 1952 qui eut des conséquences importantes pour la CGT et le PCF, et enfin une autre sur ce que l'on a appelé l'affaire des fuites. Oui. Dans les cahiers suivants, nous publierons au moins une étude sur la naissance de forces ouvrières autour de Robert Bottereau. D'autres sujets sont aussi en cours pour les numéros suivants. Nous publions aussi dans ce numéro d'autres informations et articles qui pourraient vous intéresser et qui montrent la diversité, mais aussi la convergence de nos réflexions et actions. Notre vue est ouverte à celles et ceux qui partagent nos centres d'intérêt. N'hésitez pas à nous envoyer des contributions pour une éventuelle publication. Bonne lecture. Christian Echen. Et donc, je voudrais maintenant vous donner connaissance de l'un des articles de cette publication, l'Observatoire social de la libre pensée, une étude après le discours de politique générale de François Bayrou, derrière l'enfumage, le danger corporatiste se précise. C'est quasiment une homélie inspirée par l'Église catholique, y compris dans les mots même comme conclave. C'est même à la limite de la caricature. Bayrou de Secours commence par battre sa coulpe dans la plus grande tradition du dolorisme. Citation, sur ces bancs, même parmi ceux qui sont violemment hostiles à ce que nous pensons, pas un ne trouve notre position enviable. 84% des Français, paraît-il, jugent que le gouvernement ne passera pas l'année. Et il m'arrive même de me demander où les 16% restants trouvent la source de leur optimisme. Après la flagellation, l'union sacrée au nom de tous les Français, car quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers. Quand tout va mal, on est contraint au courage. Il y a un deuxième atout décisif. C'est le besoin, l'exigence, l'injonction que le pays nous assigne, retrouver la stabilité. Où le pays, que les Français en ont besoin. Ils comprennent bien que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ils nous enjoignent, je le crois, de joindre nos forces pour forcer les issues. C'est le discours classique. Tout le monde est responsable. Tout le monde est coupable. Nation. Les sujets d'inquiétude sont innombrables, il en est un toutefois qui émerge avec une force criante, le surendettement de notre pays. Quelles incertitudes et difficultés cette situation suscite. Depuis la guerre, la France n'a jamais dans son histoire été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Fin de citation. C'est donc la faute des Français et des gouvernements qui ont voulu les aider dans leurs misères diverses et sans le dire, tout en le disant quand même un peu. C'est la reprise de la litote macroniste, le budget social coûte un pognon de dingue. Qui est visé, sinon les travailleurs, les chômeurs, les pauvres et les immigrés qui coûtent tant et rapportent si peu, entre guillemets. Sous le misérabilisme condescendant, on retrouve le terreau et le fumier, l'extrême droite. Le passage honteux sur les dangers de l'immigration n'est qu'un appel au secours à l'extrême droite et à la chouannerie de Retailleau et de Villiers. L'annonce de la remise en cause du droit du sol à Mayotte va dans le même sens, surtout mis en œuvre par Manuel Valls. Aucune ignominie raciste et xénophobe n'arrête. Sous l'évocation des Gilets jaunes et l'immense peur que cela a suscité pour la Macronie, la seule solution du pouvoir est d'en appeler au mouvement syndical pour qu'il lui serve de béquille. Citation, j'ai confiance dans les partenaires sociaux, je crois qu'ils ont entre les mains une part décisive de l'avenir national. C'est aussi cela, la nouvelle méthode démocratique, en finir avec les injonctions du haut vers le bas, redonner place à la vie démocratique avec les citoyens, les élus, tous les corps intermédiaires qui constituent la nation française. Fin de citation. C'est impliquer les syndicats dans la dégradation de la France si la situation ne s'améliore pas et s'ils refusent de faire corps avec ce nouveau gouvernement. La doctrine sociale corporatiste de l'Église au secours de la Macronie agonisante. Les corps intermédiaires, entre guillemets, sont tout droit sortis de la doctrine sociale de l'Église qui a aussi inventé le principe de subsidiarité. C'est ce que revendiquait Pionze dans son encyclique Quadragesimo Anno, définissant le principe de subsidiarité, citation, « L'autorité publique abandonne donc au groupement de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance ou se disperserait à l'excès son effort. Elle pourra dès lors assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle, parce qu'elle seule peut les remplir, diriger, surveiller, stimuler, contenir, selon que le comportement, les circonstances ou la nécessité l'exigent. Le modèle parfait a été incarné par la France d'Ancien Régime. L'État a été replié sur ses fonctions régaliennes, armée, police, justice, diplomatie. Et toutes les autres fonctions étaient dévolues à des corps intermédiaires de plus bon niveau, les fermiers généraux pour la collecte de l'impôt, l'Église et les ordres religieux pour un semblant d'éducation, de soins et de charité. C'était la stricte application avant l'heure du principe de subsidiarité défini par l'Église catholique et appliqué par l'Union européenne. Les trois États, la noblesse, le clergé et le tiers-État. C'était aussi les trois étages, l'État, les provinces et les corps intermédiaires. La Révolution française en 1789 a brisé l'Ancien Régime et le principe de subsidiarité qui n'existait pas encore formellement, mais qui était déjà pratiqué. Elle a institué une société dans laquelle on a toujours confié, pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi, à des organismes de rang supérieur les missions d'une société moderne et démocratique. Ce qui caractérise la Révolution française, la République, c'est que pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi, on a créé la notion de service public. Ce qui caractérise l'ancien régime et le principe de subsidiarité, c'est que pour briser l'égalité des citoyens devant la loi, pour donner et confier à des organismes de rang inférieur, on privatise et on détruit les services publics. La doctrine sociale de l'Église, ce sont cinq principes intangibles. Premier principe, à l'heure des révolutions, seule l'Église peut agir efficacement. Deuxième principe, la propriété privée des moyens de production et l'inégalité sociale sont d'ordre naturel et de droit divin. Troisième principe, moins de salaire trop élevé, interdiction d'une vraie grève et pas trop d'impôts sur le capital. Quatrième principe, promouvoir l'alliance du travail et du capital par la notion de communauté d'intérêt. Cinquième principe, se doter d'instruments de conquête de la classe ouvrière ou par l'instauration de corps intermédiaires quand les outils manquent. L'idée générale est que la société dans son ensemble représente le corps mystique du Christ et que les différentes structures qui la composent sont des corps intermédiaires, faisant partie du tout, le corps humain obéissant au cerveau, c'est-à-dire au Christ et à l'Église, et subordonné. Il n'y a donc pas de classe, ni d'indépendance de classe des organisations ouvrières, puisqu'elles doivent être subordonnées au tout. Elles doivent servir le bien commun et à celui de l'État, oppresseur et exploiteur. Voici ce que disait Philippe Pétain à Saint-Étienne le 1er mars 1941 en présentant la Charte du travail. Les causes de la lutte des classes ne pourront être supprimées que si le prolétaire qui vit aujourd'hui, accablé par son isolement, retrouve dans une communauté de travail les conditions d'une vie digne et libre, en même temps que des raisons de vivre et d'espérer. Cette communauté, c'est l'entreprise. Sa transformation peut seule fournir la base de la profession organisée, qui est elle-même une communauté de communautés. Cela exige qu'une élite d'hommes se donne à cette mission. Ces hommes existent parmi les patrons, les ingénieurs, les ouvriers. C'est à eux d'abord que je fais appel, leur demande de se pénétrer de la doctrine du bien commun, au-dessus des intérêts particuliers, de s'instruire des méthodes d'organisation du travail capables de permettre à la fois un meilleur rendement et plus de justice en donnant à chacun sa chance dans l'entreprise et dans la profession. Donc, fin de citation de ce que disait Philippe Pétain à Saint-Étienne le 1er mars 1941 en présentant la Charte du travail. Rappelons que tout le mouvement syndical a refusé et combattu la Charte du travail, notamment par le premier acte de résistance, à savoir le manifeste des 12 de novembre 1940, qui proclamait que le syndicalisme français doit s'inspirer des principes essentiels, dont 1. Il doit être anticapitaliste et, d'une manière générale, opposé à toutes les formes de l'oppression des travailleurs. 2. Il doit prendre dans l'État toute sa place et seulement sa place. 3. Il doit affirmer le respect de la personne humaine en dehors de toute considération de race, de religion ou d'opinion. 4. Il doit être libre, tant dans l'exercice de son activité collective que dans l'exercice de la liberté individuelle de chacun de ses membres. 5. Il doit rechercher la collaboration internationale des travailleurs et des peuples. Ce sont les principes qui ont conduit la CGT Force Ouvrière, notamment, à appeler au nom à De Gaulle en 1969 sur un projet similaire à celui que présente François Bayrou aujourd'hui. Il lui arrivera nécessairement la même chose. 1940, 1969 et aujourd'hui, l'heure est à la résistance. La farce de la rediscussion de la contre-réforme des retraites. François Bayrou fait une proposition que les citations partenaires sociaux entrent en conclave pour discuter de cette contre-réforme. Plusieurs des partenaires sociaux ont indiqué qu'ils avaient identifié des pistes pour que la réforme soit socialement plus juste et cependant équilibrée. Elles méritent toutes d'être explorées et toutes les questions doivent pouvoir être posées. Chacun des partenaires sociaux aura le droit de faire inscrire à l'ordre du jour de ces discussions et négociations les questions qui le préoccupent. Rien n'est fermé. Une délégation permanente sera donc créée. Je la réunirai dès vendredi. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s'installer dans les mêmes bureaux, ensemble, pendant 3 mois, à dater du rapport de la Cour des comptes. Si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Le Parlement sera saisi lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, ou si nécessaire, par une loi. Et donc, il ajoute cette menace, je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Incitation. Si ce n'était pas si grave, on en rirait. Leroux se prend pour Don Corleone dans Le Parrain, en faisant une proposition que personne ne peut refuser, car il a le pistolet sur la tempe. Qui va accepter cela? Et il se prend pour qui et quel moyen a-t-il pour imposer cela? Le pouvoir est discrédité de partout et au fond du trou. Il ne peut donc compter que sur l'aide de ceux qui confondent compromis et compromission pour une telle trahison des intérêts des travailleurs. Pourquoi faire payer les riches quand les pauvres sont si nombreux? Ce vieil adage du libéralisme sauvage du capitalisme du XIXe siècle est toujours d'actualité. La rhétorique macrono-bérouiste est clairement indiquée. Il nous faut repenser tous nos budgets à partir non pas du prolongement de ce qui se faisait l'année précédente, augmenté d'un pourcentage d'inflation, mais de ce qu'exige le service ou l'action à conduire. Ces budgets redéfinis, repensés, je demanderai à tous les ministres de les préparer dès le printemps. C'est un effort dont personne ne pourra s'exclure. Chacun à sa manière dans l'exercice quotidien de ses missions. Enfin, tout le monde doit faire un effort, ou presque. Il existe de chez nous un vieux réflexe, cibler les entreprises et plus spécialement les entreprises françaises, et en particulier celles qui réussissent le mieux à l'exportation. Ma conviction est que nos entreprises, nous devons leur faciliter la tâche dans les conditions fixées par la démocratie sociale. Elles doivent être prémunies contre les augmentations exponentielles d'impôts et de charges. Mais aussi, je l'ai dit, le jour de ma prise de fonction, donc François Bayrou qui dit ça, nous avons maintenant devant nous une grande œuvre de réconciliation, réconcilier les Français entre eux, réconcilier les Français avec l'État et leurs élus, réconcilier les Français avec les entreprises, c'est ce que disait Pétain, mot pour mot dans la Charte du travail. Cette communauté, c'est l'entreprise, en donnant chacun sa chance dans l'entreprise et dans les professions. Le plan d'austérité annoncé par le nouveau locataire de Matignon est encore plus destructeur que celui de son prédécesseur. La saignée va augmenter de plus de 50 milliards. Pour illustrer les conséquences de ces politiques d'austérité gouvernementale, je citerai deux exemples qu'il n'est pas besoin de commenter. Nombre d'agriculteurs, 1970, 1 588 000. 2000, 664 000. 2020, 380 000. Nombre de bateaux de pêche, 1993, 11 660. 2005, 5 360. 2021, 4239. La guerre en toile de fond comme perspective d'écrasement de la démocratie. L'hommage à l'armée française, dont les budgets vont augmenter considérablement à la demande des États-Unis, pour déboucher sur une économie de guerre comme seul moteur de relancement des profits capitalistes, s'est accompagné de références tout à fait explicites. Un philosophe qui siégea sur ses bancs, Marc Saunier, a défini la démocratie comme l'organisation sociale qui porte à son plus haut niveau la conscience et la responsabilité du citoyen. Or, il n'y a pas de citoyen conscient et responsable si on ne partage pas avec eux les vérités les plus fondées, même les plus brutales. Comme l'écrivait Charles Péguy, il faut dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse et tristement la vérité triste. Rappelons que c'est Marc Saunier, qui a fait calotin, qui a fondé la revue Esprit, dans laquelle Emmanuel Macron a collaboré dans tous les sens du terme, qui a armé philosophiquement et religieusement le bras de l'assassin de Jean Jaurès pour ouvrir la voie à la Première Guerre mondiale. Quant à Charles Péguy, il encensait la guerre, l'esprit de caserne, l'uniforme, au point que sa célèbre expression sur les hussards noirs à propos des instituteurs n'est en rien un hommage à l'émancipation humaine et à l'instruction qui élève, mais elle manifeste sa conception militaire de l'enseignement. J'ai indiqué dans un article de La Raison ce que je pensais de lui. Il glorifiait la guerre et l'union sacrée. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. proclamait-il. Lieutenant de réserve, il part en campagne dès la mobilisation en août 1914 dans la 19e compagnie du 2276 régiment d'infanterie. Il meurt le 5 septembre en Guelle, près de Meaux, lieu essentiel des combats de la bataille de Lourcq à la veille de la première bataille de la Marne, tué d'une balle au front alors qu'il exhortait sa compagnie à ne pas céder d'un pouce de terre française à l'ennemi. Peggy avait dit aussi que l'homme n'est jamais libre au régiment. Hors des servitudes civiles, hors des émoussements civils, sensible aux bons procédés, sensible aux mauvais, sensible aux contre-poids, sensible à l'injure, suivant jusqu'à la mort le chef ami, le chef aimé, le chef courtois, haïssant à mort le chef discourtois, le chef injurieux, tel est le français, tel est le peuple, tel nous sommes. En résumé, donc c'est la situation de Peggy, en résumé, il a vécu comme un réactionnaire et il est mort comme un con, au moins qu'il connaisse en lui une certaine continuité. Avec la loi de programmation militaire de 413 milliards, le service national universel, les classes de défense, le port de l'uniforme à l'école, les hommages à Sangnier et à Peggy, c'est tout un conditionnement qui est mis en œuvre pour la marche à la guerre. Béroux a beaucoup cité et récité. Il a aussi nommé Pierre Mendès France. Il aurait pu citer que ce que celui-ci disait dans son témoignage dans le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls sur l'occupation nazie à Clermont-Ferrand. Il y a deux choses résiduelles en France qui montent, qui descendent, qui stagnent, mais qui ne disparaissent jamais, l'anglophobie et l'antisémitisme. Mais cela aurait été contraire à l'ignoble chasse aux sorcières menée par des ignorants incultes contre Jean-Luc Mélenchon. Béroux, c'est courage, fuyons. Il a cité aussi Simone Veil et son premier besoin de l'homme. Béroux se vante toujours d'en avoir une. Elle ne doit pas être bien grande pour un tel silence complice avec les sycophants, parce que lui, il sait que l'accusation portée contre elle et fille est profondément mensongère. Une politique d'alignement complet sur les États-Unis. Voici l'avenir que trace Beyrouth Secours. En faisant l'éloge d'un monde multipolaire, la Chine tisse le réseau de sa domination économique, technologique, diplomatique et militaire. L'excédent commercial chinois vient de franchir le cap, écoutez bien, des 1 000 milliards de dollars. C'est une stratégie programmée depuis 10 ans qui vise purement et simplement à remplacer notre industrie. Nous avions, dans la défense de ses règles, bafoué un si grand allié, parfois incommode, les États-Unis. Fin de citation. Soyons logiques. Si on condamne un monde multipolaire pour le moins, on souhaite au moins un monde unipolaire sous la houlette du grand allié. Mais avec Washington, il y a aussi Tel Aviv. Citation. Dans le nouveau monde de la force brutale, la France a ses propres droits, ses propres atouts, pardon. Sa diplomatie, la force de son armée et l'engagement de ses militaires auxquels je rends ici hommage, ils nous protègent collectivement. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion d'évoquer le sort de nos otages retenus par le Hamas, ainsi que celui de tous nos otages dont nous demandons la libération. Fin de citation. C'est la première fois qu'un gouvernement français parle d'otages français du Hamas, se rendant ainsi complice du génocide contre le peuple palestinien, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Or, il n'y a pas d'otages français du Hamas. Il y a des otages du Hamas parce qu'ils sont israéliens et non pas français. Nous sommes par principe contre les prises d'otages, cela ne se discute même pas. Mais pourquoi parler de ceux du Hamas et pas des otages français ailleurs, comme par exemple en Iran? Les mots ont un sens et les mots de Beyrouth sont des partis pris honteux et scandaleux. Autre alignement complet, l'apologie de l'intelligence artificielle à mettre en œuvre partout dans le public comme dans le privé. Mais qui possède les outils pour cela, sinon les États-Unis? Qui peut faire croire que Donald Trump va jouer les partenaires gentils dans cela quand on voit ses prétentions sur une partie du monde? C'est se moquer du monde que de jouer de la mandoline sur la France et l'Union européenne. Cela sera la mainmise des USA sur tous les process qui débouchera sur une dépendance, une servitude et une indignation encore plus grande. Quand la répression ne suffit plus, on achète. Le passage du discours de politique générale a été peu cité, mais il est essentiel pour comprendre. Citation. Je crois à la laïcité en matière religieuse comme en politique. Laïcité, dont la racine grecque veut dire faire un seul peuple. Faire un seul peuple, c'est reconnaître que le pluralisme est légitime. Je souhaite proposer les partis politiques comme les syndicats puissent être reconnus comme des mouvements d'utilité publique. Parler de pluralisme, tout en promotionnant un seul peuple. Cela rappelle des temps où le totalitarisme voulait mettre en œuvre une idéologie d'État qui s'imposait à tous. C'est d'ailleurs ce que cherche la loi séparatiste du 21 août 2021 au nom du pseudo-valeur de la République. Mais faire des associations et des syndicats des partenaires sociaux reconnus d'utilité publique, c'est aller bien au-delà de la possibilité de recevoir des subventions. Voici la définition tirée du site de la du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. La reconnaissance de l'utilité publique permet notamment aux associations ou fondations qui en bénéficient de recevoir des donations et des legs et de s'assurer ainsi d'une certaine pérennité. Pour être reconnue d'utilité publique, l'association ou la fondation doit œuvrer dans l'intérêt général. Fin de citation. Est-ce le rôle d'une association, celui d'un syndicat, de servir l'intérêt général ou bien de servir l'intérêt de ses adhérents et des travailleurs pour les syndicats, l'intérêt général ou le bien commun pour l'Église catholique, ni les intérêts particuliers et le conflit de classe aux intérêts différents? Reconnaître les syndicats ouvriers d'utilité publique, c'est les acheter pour leur faire changer de nature et en faire des corps intermédiaires de l'État, le tout écrit plus avant. Il s'agit bien d'un projet totalement corporatiste, lui propose François Bayrou. Petit retour sur l'histoire. À la fin du Second Empire, Napoléon III était dans une situation comparable à Emmanuel Macron, détesté et contesté par toute la société. Après un plébiscite gagné par Scaramanger, il allait être à terre 4 mois plus tard. Il eut donc l'idée, pour gagner ses faveurs et tenter de durer encore un peu, de proposer à l'obédience maçonnique dite Grand Orient de France de devenir reconnue d'utilité publique, avec tous les avantages liés à cela. Au sein de la direction du GODF, il n'y eut qu'une voix contre. L'écrasante majorité avait la faiblesse de la chair pour les liquidités et les décorations. Alors le seul opposant eut l'idée de lire à haute voix la fable « Loup et le chien » de Jean de La Fontaine, qui raconte qu'un loup affamé rencontre un chien dodu et bien gras et lui demande comment il fait. Le chien répond qu'il n'a rien à faire que d'obéir à son maître. Le loup est tenté, mais il aperçoit une blessure au cou du chien. Il lui demande d'où cela vient et le chien lui répond que c'est son collier qui l'attache, qui le blesse. « Taché, dit le loup, vous ne courez donc pas, où vous voulez ?»« Bon, toujours, mais qu'importe, il importe si bien. » Que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais même pas, à ce prix, un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Moralité, il vaut mieux être pauvre et libre que riche et attaché. Le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France décida alors à l'unanimité de refuser d'être reconnu d'utilité publique pour rester libre. Et 4 mois plus tard, Badingué gisait à terre et prenait la route de l'exil en Angleterre, où il mourut méprisé de tous, quelques mois plus tard. Les prolétaires montaient à l'assaut du ciel, citation de Karl Marx, en proclamant la Commune de Paris. Une autre histoire, la nôtre, commençait alors. Christian Eschen. Donc, je voudrais profiter des dernières minutes qui restent à cette chronique pour rappeler les prochains rendez-vous que vous propose le groupe Pretzeler de la Libre Pensée d'Ordogne. Tout d'abord, le samedi 14 juin à 15h, dans la localité de Saint-Aquilin, qui est donc toute proche de Saint-Astier. Salle Orchidée, qui est située sous la salle des fêtes donc de Saint-Aquilin. La Libre Pensée, le groupe Fretzeler, organise une réunion publique, débat, sur la question « Qu'est-ce que la Libre Pensée ?» Laïcité de l'école, laïcité de l'État. Et venez nombreux à cette réunion, nous allons y aborder tous ces sujets et en débattre librement. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est un peu plus tard au mois de juin, c'est le 26 juin à 18h à la Filature de Lille, salle de danse numéro 1, si je me souviens bien, où là le débat proposé est sur un autre thème, le capitalisme et la guerre. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site du groupe Pretzeler de la Libre Pensée d'Ordogne, lpdordogne.fr. Je vous donne donc rendez-vous maintenant pour une prochaine chronique du groupe Pretzeler, le lundi 18 juin. Donc, bonne semaine. Au revoir.
En forgeant un socle charrue.
C'était la chronique du groupe Pretzeler de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Pretzeler, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Pretzeler sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
lève-bas.